Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec Grégory Basso. Et oui, son nom vous dit peut-être quelque chose, Greg le millionnaire. Eh bien, il revient à la télévision. On en parle avec lui dans un petit instant. Et puis à 10h30, on parlera du pass sanitaire avec Jean-François Rial. Est-ce qu'on sera obligé d'avoir un passeport sanitaire pour voyager? On en parle avec lui dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Dantane.
Bonjour Valérie.
Bonjour Grégory Basso.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir ce matin.
Merci.
Greg, c'est votre petit nom, Greg le millionnaire. C'est comme ça qu'on vous a connu il y a un certain temps.
On va... Il y a plus de 20 ans, hein, c'est ça?
Non, pas encore, mais bon, non. 18. Ouais.
18 ans,
non,
bah, c'est pas loin.
Je ne suis pas loin.
vous revenez à la télévision sur Énergie 12 dans les Vacances des Anges. Donc vous allez nous raconter ce retour à la télé-réalité. Réalité, ce que vous avez fait pendant ces 18 ans. Et Gilles, on commence avec la question du jour.
Vous vous souvenez quand même, Greg le millionnaire, ça avait été un événement à la télévision. Hein. C'était l'idée de faire passer quelqu'un qui n'a pas d'argent pour un millionnaire. C'est un peu My Taylor is Rich, vous savez, My Fair Lady. Et évidemment, c'était plutôt bon enfant à l'époque. Et c'est vrai qu'en 20 ans, la télévision de la télé-réalité est devenue un petit peu plus trash. Et on vous a posé la question sur Twitter. Trouvez-vous que la télé-réalité est-elle devenue trop trash? Eh bien oui, à 87% pour le moment sur le compte Twitter de Sud Radio, vous pouvez aller voter. Et non, à 13% pour l'instant, nos auditeurs pensent que la télé est devenue plus trash.
Ouais, c'est pas une grosse surprise.
Hein. Oh, mais complètement. Ouais. Moi, je me rappelle des prémices de la télé-réalité. Tu n'insultais pas les gens, il n'y avait pas des histoires de bagarres, il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. C'est clash sur clash. Ils aiment bien faire le buzz, les jeunes. Quoi. Ouais. Nous, à l'époque, on essayait de se tenir, justement. Enfin, je faisais quand même assez gaffe à mon image, personnellement. Ouais. Les filles aussi, je m'en rappelle.
Ouais.
Ça a tourné, moi, pour moi, ça a tourné un peu dans le trash quand j'ai fait La Ferme.
Ah
et
oui,
quand
c'est vrai.
Quand il y avait Bandetta qui était là-bas et qui foutait le bordel. Et c'est là que je trouvais que c'était trop, quoi. C'était trop,
ouais. Ouais, vous regrettez d'avoir fait La Ferme?
Non, au contraire, je me suis régalé, c'était génial. Au niveau aventure, c'était magnifique. Elle te réveillait le matin avec des animaux, donner à manger à des guépards, à des antilopes.
Ah oui, c'était La Ferme en Afrique.
Ouais.
Ah
ouais,
c'était
Afrique.
La Ferme célébrité en Afrique. Ouais, ouais.
C'était fabuleux. Et ben, les deux premières, j'aurais moins aimé parce que c'était à 8 km de là où j'ai grandi, en fait, dans le Vaucluse.
Oui, vous êtes de Manosque, c'est ça?
Je suis né à Manosque, mais j'ai grandi dans le
Vaucluse. Au-delà des animaux, c'était quand même assez hard comme expérience.
Ouais, humainement, c'était beaucoup plus hard. Et puis, j'avais jamais vraiment fait des missions d'enfermement.
Ouais.
Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Rester deux mois et demi dans un truc comme ça, avec des gens que tu supportes pas forcément, tu vois.
C'est compliqué. On va reparler de tout ça, de cette télé-réalité.
Toute la télé-réalité.
Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Hier, Valérie, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait un documentaire coup de poing sur BFM, dans la collection Ligne Rouge, un dossier sur la menace islamiste, avec le témoignage de Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, qui racontait que sa vie n'était plus la même et que son domicile avait été transformé en bunker. Écoutez.
On ne peut pas tout vous dire, déjà pour commencer. Enfin, la maison, disons, est relativement inattaquable. Il y a des blindages, les fenêtres, les machins, les portes.
Vitres et portes sont conçues pour résister aux balles. Deux officiers de sécurité lui sont affectés 24 heures sur 24. Ils disposent même d'une pièce entièrement blindée, avec réserve d'eau et de vivres.
Il faut casser un mur pour rentrer dedans, si vous voulez. Il y a un téléphone avec une ligne d'alerte. En cas d'attaque, ça permet de se réfugier avec la famille.
Et puis un autre passage choc, celui avec Fenzi Benhabid, qui est de l'Observatoire de la laïcité, qui nous montrait comment, petit à petit, Saint-Denis, en banlieue parisienne, ça a imposé les standards de l'islamisme. Écoutez bien cet extrait, Valérie.
Ce militant laïque nous propose de l'accompagner discrètement dans les rues de sa ville.
Ici, c'est un stand pour les enfants.
C'est le coin pour les enfants. Il y a des courants pour enfants, il y a tout, quoi. Par exemple, il y a une poupée avec son visage et tout, mais qui est parfaitement voilée. Donc déjà, on éduque les enfants dans ce sens.
Donc ici, on a un ours en peluche. Et qu'est-ce qu'il a de particulier?
Ah ben, il n'a pas Dieu. Parce que la représentation en islam de la figure est, disons, est tabou.
Donc des ours sans yeux pour les enfants, c'était assez fort. C'est un peu de la télé-réalité depuis la crise du Covid-19. C'est le défilé des médecins, réanimateurs et autres virologues qui s'empoignent sur les plateaux. Et hier, l'un d'eux, Martin Blachier, la star des virologues sur le plateau de CNews, alors il y a été à la sulfateuse, hein, Valérie, ça a défouraillé grave.
Karine Lacombe, quand les mesures ont été annoncées, elle a dit que ce sont d'excellentes mesures. Elle a dit, si jamais le président avait confiné en janvier, aujourd'hui, tous les restaurants seraient ouverts en France. Je suis désolé, mais Karine Lacombe, elle a le don de sortir des espèces de choses comme ça, et elle surfe en permanence sur les tendances. Et maintenant, elle signe une tribune pour dire qu'elle va trier les malades, alors qu'elle n'est même pas réanimateur.
Allez, boum.
Ouais, ouais.
Et puis, c'est pas parce qu'on fait une télé-réalité qu'on n'a pas des bonnes manières. Alors, à moins que ça soit stratégique, je ne sais pas si vous avez regardé Marié au premier regard, c'est un peu...
Vous les regardez ou pas? Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision?
J'en regarde plus trop.
Alors, vous habitez à La Réunion, ouais.
Déjà, c'est décalé, on les a indifférés, puis avec les horaires de travail que j'avais régulièrement avec les restaurants, c'était un peu plus compliqué. Et puis, j'ai pas envie de. Je passe du temps avec mes gamins. Hein. J'ai pas forcément le temps souvent.
Ouais. Donc, ça, vous n'avez pas vu.
Non, vous l'auriez fait, Marié au premier regard?
Non, certainement pas, non.
Pourquoi?
Parce que je trouve ça complètement, complètement débile.
Bon.
Tu sais très bien que c'est fake et tu veux te marier avec quelqu'un au premier regard comme ça. En fait, je sais pas le concept, s'il se marie vraiment ou pas. Je suppose
si, il se marie vraiment.
Non, mais c'est pas légal, pas devant la loi.
Si, devant la loi.
Si, il y a un maire qui accepte.
À la mairie.
Et il signe.
Oui, et après, la production paye le divorce.
Bon, mais il faut peut-être que je regarde finalement.
Non, vous l'auriez pas fait ça. Si on vous le propose, vous faites pas ça. Enfin, vous êtes déjà marié en plus.
Je suis pas encore marié, mais je l'ai demandé à marier, ça fait un moment, ça va pas tarder.
Et ben écoutez, la cérémonie de mariage, je vous y emmène, c'était hier soir. Un carton d'audience. Hein.
Ah ouais.
Ouais, c'est un vrai carton marié au premier regard. Et là, vous allez voir que la mariée va avoir un doute et le marié va se dire « Ah, j'ai peut-être la technique de bonne manière. »
J'ai un moment de doute que je ne pensais ne pas avoir. Est-ce que je dis oui vraiment ?
Je sens que Laure a trop d'hésitation. Je sens qu'elle va te dire non.
J'ai oublié de faire quelque chose de plutôt important. J'ai 5 minutes. Savoir si vous accepteriez de me confier la main de votre fille, si bien sûr votre fille est d'accord. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et parmi les traditions qui sont importantes.
Bien sûr.
J'ai senti l'émotion de mon père. J'avais quasiment jamais vu mon père pleurer.
Madame Laure, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Mathieu André Séraphin, ici présent.
Alors d'après vous, est-ce qu'elle
le père valide en plus?
Oui, bien sûr. Bah, non, il y a toutes les familles qui sont là, faut que vous regardiez.
Ah, faut que je regarde.
Et
parce
ça
que
fait 3 millions de téléspectateurs, 2 900 000 téléspectateurs, quasiment à égalité avec les Rivières Pourpres, on fait près de 4 millions et Un Homme d'honneur 4 millions 4. Mais c'est quand même énorme, 3 millions.
C'est énorme pour M6, énorme carton, énorme carton sur la ménagère. Et donc elle a dit oui. Ça y est, ils sont mariés. Mais oui, monsieur.
Ça vous embouche un coin. Hein. Vous êtes un vieux maintenant.
Ouais,
hein.
C'est une blague, ça. C'est franchement
Greg
c'est une blague.
Le millionnaire, c'était très novateur à l'époque. Ouais, mais alors vous étiez petit bras. Hein.
Mais c'est clair, on était des rigolos en fait à l'époque, nous. Pas tout ça.
Bon, et puis à votre époque, les prétendantes étaient un petit peu plus naturelles. Vous savez, elles avaient plus.
Un peu moins refaites.
Ouais. Un peu moins refaites, les rêves repulpés qui sont la norme de la télé-réalité. Puis ils ont des agents maintenant pour faire de l'argent. L'une d'elles, c'est Magali Berda qui fait fortune avec les gens de la télé-réalité. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Ben, vous allez voir.
En finale, 40 000, en tout.
Ah, vous êtes refité complètement.
Ah bah oui, j'ai tout fait, j'ai fait la poitrine, j'ai fait tout, moi. J'ai fait l'hypo deux fois, j'ai fait une petite injection dans les fesses.
Ah ouais.
Après, j'ai fait quoi? Tout le visage.
J'ai refait les dents aussi.
Ouais.
C'est bien de le dire.
Ah bah pour 40 000 euros, on peut se refaire pas mal de choses. Hein.
J'imagine. Ouais.
Tout est vrai.
Ouais, surtout mes rides.
On voit que vous découvrez ce genre de propos.
Non, ça, je ne découvre pas parce que je le vois régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est devenu malheureusement une habitude. Je crois que c'est les Kardashians qui ont lancé la mode des postérieurs refaits, gonflés, des machins.
Ouais.
Je trouve que c'est dommage qu'une grosse partie de la population et de la jeunesse veuille s'identifier à ces filles qui...
Ouais.
Quand tu les vois de base, elles étaient super moches, quoi, en fait. Elles sont gavées de chirurgie esthétique, mais dans quelques années, à quoi elles vont ressembler?
Mais alors, pourquoi vous avez accepté de faire les vacances des anges?
Ah, ben, je vois pas le rapport, en fait. Non, il y en a plein qui n'ont pas fait de chirurgie dans les vacances des anges. Il y en a deux, trois, peut-être, qui en ont fait un peu. Non, vraiment.
Bon,
hein.
Je t'assure.
Mais alors, racontez-nous un petit peu, vous avez fait de la chanson, vous avez été comédien, vous vivez à La Réunion, donc très loin de la France. Et puis, là, on est revenu vous chercher pour présenter, pour être une sorte de maître de cérémonie des vacances des anges.
En fait, quand ils voulaient... À cause du Covid et des normes sanitaires, ils avaient peur d'aller tourner à l'étranger. Ils voulaient tourner absolument en France et ils pensaient à aller tourner soit En Martinique, peut-être, ou à La Réunion.
Ah, mais comme oui, il y a eu cette affaire avec le maire de La Réunion.
Le producteur de la grosse équipe m'appelle et me dit, Greg, je sais que tu vis là-bas, qu'est-ce que t'en penses de La Réunion ? Comment c'est ? J'ai fait, bah, écoute, La Réunion, c'est magnifique. C'est une super île pour faire des images, parce que, voilà. Et en plus, au niveau du tourisme, ça ne pourra pas leur faire de mal, tu vois. Il me rappelle quelques jours après, mais il me demande de trouver une belle villa. Et si on a une belle villa, bah, ils viendront vérifier. Et puis à ce moment-là, ça risque de se faire, quoi. Et je leur trouve la plus belle villa de l'île. C'était juste sublime. Et tout s'est enchaîné, ils m'ont proposé de bosser avec eux, de collaborer avec eux, mais pas en tant que candidat, parce que candidat, de toute manière, je ne voulais plus le faire depuis bien longtemps.
Vous êtes trop vieux.
Je suis trop vieux, et puis j'aurais plus la patience. Mais en tant qu'animateur, donc c'était génial. Et puis j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Et après, il y a eu cette histoire.
Ah mais oui, dans le restaurant, avec le maire.
Mais alors, qui dit vrai ? Qui a menti ?
Les deux. Ouais. Enfin, les deux, non. Je pense que c'est plus une erreur... C'est une situation qui a dégénéré pour rien, je pense. Oui. C'est pour une histoire de photo, excusez-moi. Et l'ego d'une des personnes qui s'est levée avec sa famille, qui... Je sais pas d'où c'est venu, j'étais pas là, moi, pour le voir. Ouais. La justice, en tout cas, a classé l'affaire. Mm. Une chose qui est sûre, c'est que des deux côtés, c'est pas blanc-bleu, voilà.
Ouais. Okay. Et donc, ça fait c'était il y a 18 ans, c'est ça, Greg le millionnaire.
Greg le millionnaire,
ouais, ça représente quelque chose pour les jeunes des anges.
Pour les plus anciens, oui. Pour les jeunes, non, parce qu'il y en a, il y en a qui avaient 3-4 ans quand j'ai fait l'émission, donc ils ont pas
connu. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas en mémoire, à quoi ça ressemblait Greg le millionnaire? Ça ressemblait à ça, je vous ai retrouvé la bande-annonce, Valérie.
Grégory est un garçon simple. Il vit grâce à des chantiers et des petits boulots. À la recherche de l'amour, il rêve d'une vie meilleure. Quand soudain, il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante de multimillionnaire.
Bonjour. Les mythos, quand même.
Les mythos, ouais. Mais ça vous, c'est tout ? Ça vous a changé la vie ?
Complètement, ouais. Ça a complètement bouleversé ma vie.
Parce que vous étiez sur des chantiers, on vient de l'entendre.
Non, c'est du pipeau. C'est pour ça que je dis c'est complètement du pipeau. Ouais. Non, ça, c'était pour faire le générique, et parce que ça racontait un peu la même histoire que Joe Millionaire, qui avait fait la même émission aux États-Unis sur Fox.
Absolument.
Et quand ils ont voulu faire un parallèle, en fait, avec... quand je tape à la masse dans le mur, que je joue au golf, quand je tire le saut, ben que je tire les cordes du bateau, tu vois, que des trucs comme ça.
Alors, est-ce que 18 ans après, en vous, tout est dur ?
Ah, toujours. toujours.
Bah,
c'était la réflexion.
Ça n'a pas changé.
Ouais. Voilà, tout est dur en vous. Parce que c'était ce que vous avez dit à Marjolaine, ça ?
Bon, il fallait jouer un peu le jeu.
Et ça a fait du buzz, cette phrase.
Ouais, la preuve, regardez, 18 ans après, on en parle encore.
On en parle 18 ans après.
Et vous n'avez plus de contact avec Marjolaine ?
Non, du tout, non.
Ni avec vos prétendantes.
Non, bon, de temps en temps, j'en croise ou j'en vois une ou deux, ou mon ex, Marika, de temps en temps, avec qui j'avais fini l'émission.
Ouais.
Mais personne d'autre.
Et donc là, les vacances des anges, c'est un retour à la télé-réalité. Comment vous avez vécu ce retour devant les caméras ?
Je l'ai bien vécu. Je vous avoue que ça m'avait manqué un peu les caméras, tout ça. Ça m'avait vraiment manqué. Ça fait vraiment du bien de revenir dans le game. Je l'ai vécu différemment, parce que moi, j'étais pas dans la ville avec eux, j'étais en intervenant extérieur, en tant qu'animateur, je venais faire mes séquences, et puis je partais, après, j'avais mes plateaux, et basta.
Mais Greg, ça a quand même changé votre vie, vous vous dessaignez pas à être célèbre,
et à
faire ça, et qu'on a pas mal fouillé dans votre vie et autres. Ouais. Comment vous avez vécu cette célébrité?
Vous avez publié un livre, où vous avez raconté un certain nombre de choses.
Bien sûr, où j'ai tout raconté, tout simplement, pour qu'on en finisse, quoi.
Mais comment vous avez vécu cette célébrité? Finalement, vous le referiez?
J'ai bien vécu, il y a eu des trucs un peu plus relous que d'autres, un peu plus durs que d'autres, mais je l'ai quand même bien vécu, parce que j'avais pas 20 piges, j'avais 29 ans déjà.
Ouais, ouais.
J'avais une vie mouvementée avant, et puis j'étais tombé bien bas à l'époque. Donc quand tu es tombé aussi bas, tu sais d'où tu viens, tu sais qu'il faut pas s'enflammer, quoi.
Donc ça a changé votre vie, en fait.
Ah oui,
vous destinez de faire une télé-réalité.
Et vous faites quoi à La Réunion ? Vous vivez
de quoi aujourd'hui ? Je suis directeur d'un restaurant boîte de nuit sur Saint-Gilles, le Yacht Club, qui est malheureusement fermé à cause de tout ce qui se passe, quoi, depuis un petit moment.
On attend impatiemment.
Non, il fait pas hôtel.
Ah,
non.
Merde. Il fait avec hôtel, non. Ouais.
Et c'est beau. On mange bien et puis c'est beau.
Ouais. Mais et donc vous êtes, vous avez cette activité aujourd'hui, boîte de nuit, restaurant.
Ouais, j'avais. Et puis là, depuis un an, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. On peut pas travailler, clairement. À La Réunion, on est un peu plus chanceux qu'ailleurs parce que le couvre-feu, il est pas là depuis si longtemps, mais jusqu'à il y a trois mois, on pouvait encore ouvrir le restaurant à minuit, quoi.
Ouais,
vous avez trois enfants, ils savent que vous avez été Greg le millionnaire.
Hilario, le plus grand, oui, il sait. Livio, le plus petit, il sait parce qu'il a fait des reportages avec nous aussi là-bas. Il y a eu des caméras de TF1 qui sont venus nous filmer. mais il ne sait pas exactement ce que c'est, il ne comprend pas trop
ni
à 4 ans.
Ce que vous avez fait par
ce que
le
j'ai
passé.
Fait. Quand il me voit à la télé, il rigole, il se dit mais pourquoi papa il a la télé. Quand il se voit lui aussi, ça le fait halluciner, quoi. Mais il s'en fout clairement. Hein. Ouais. Et le plus petit, Mathéo, il a 2 ans, donc.
Et vous aimeriez revenir à la télévision plus régulièrement avec une émission
Ah, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ouais. J'espère que, bah déjà, j'espère que l'aventure avec la grosse équipe NRJ12 va continuer, que ça se passera bien. Et puis, peut-être qu'il y aura d'autres propositions après, j'espère.
Oui, il faut dire à nos auditeurs que la grosse équipe, désormais, ça appartient à Arthur. Vous l'avez rencontré ou
Arthur
pas
et Antoine Henriquet, ouais. Arthur, non, là, je ne l'ai pas. J'ai eu affaire qu'à Antoine Henriquet.
Antoine, qui était à la production et qui produisait la majorité des téléréalités. Ouais. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez? On voit également beaucoup revenir Loana, parce qu'on parle des 20 ans du Loft et autres. Comment on peut... vous pensez que la téléréalité l'a détruit? Est-ce que si on ne fait pas attention, ça peut détruire?
C'est pas la téléréalité qui l'a détruite. C'est l'entourage qu'elle a eu, les choses qu'elle a dû faire, mauvais choix qu'elle a fait à un moment avec certaines personnes... Et qu'elle a abusé de certaines choses aussi, elle le dit elle-même. C'est une fille qui est fragile, qui est très gentille, mais qui est fragile et qui a toujours été super influençable et malheureusement très mal entourée. Et on le voit encore aujourd'hui. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour elle parce que je la trouve adorable. Et je la connais bien. Hein.
Ouais, vous la connaissez bien,
je l'ai quand même fréquentée pas mal de fois à l'époque. Ouais. On était potes, tu vois. Ouais. Ça me fait mal au cœur quand je la vois galérer comme ça. J'espère que ça va aller pour elle et que tous ces parasites autour d'elle vont se barrer, finalement.
Oui, mais elle est, effectivement, c'est cette médiatisation aussi qui l'a même beaucoup détruite.
Je ne sais pas, moi, quand on dit ça, regardez, moi, j'ai été médiatisé, je suis tombé haut, je suis tombé bas, j'ai eu des périodes de creux où je n'avais plus un rond non plus, là, le téléphone ne sonne plus, et puis tu étais en galère, clairement. Hein. Mais tu luttes, quoi, pour t'en sortir, tu bosses, et puis après, ça revient un peu mieux, et puis c'est comme ça, la vie d'artiste aussi, tu vois.
Parce que, la différence avec votre époque, ils sont devenus très professionnels aujourd'hui, les candidats de télé-réalité.
Complètement.
Vous le voyez comment ils gèrent leur image, ils gagnent beaucoup d'argent, non?
Moi, si j'avais fait ça à l'époque, j'ai fait ça 10 ans trop tôt, moi, ou 15 ans trop tôt. Hein.
Voilà. On ne peut pas ne pas vous poser la question sur l'affaire Gérard Louvin, c'est lui qui produisait Greg le Millionnaire. Vous aviez.
Je me suis exprimé déjà hier à ce sujet-là.
Ouais. Ah oui?
J'ai eu vent. J'ai entendu comme tout le monde ce qui s'est dit. Donc je peux pas dire quoi que ce soit de plus que ça. Moi personnellement, je les ai jamais vus avec des gosses. Après, j'ai entendu des histoires. Hein, tout le monde le dit. Ce qui est de la fumée. Ouais. Je sais pas.
Les histoires que vous aviez entendues?
Comme tout le monde, ce qui est sorti à la télé, là.
Déjà, à l'époque, il y avait des enfants.
Non, moi, c'est pas ça, ouais. À l'époque, oui, j'avais entendu des trucs à l'époque. Ouais. Mais bon, les gens, ils parlent, les jeunes sont jaloux.
Ouais. Et vous n'avez jamais été victime de... Est-ce que vous avez eu des avances
de Gérard, j'ai eu des avances régulièrement. Mais bon, c'était souvent sous fond de comédie, puis j'ai jamais eu un geste déplacé ou quoi que ce soit. À l'époque, je partais en vacances avec lui, avec ma nana, avec Marika. Ouais, ils étaient avec un mec, mais le mec, il est 30 piges, il était baraqué, ça n'avait rien à voir. Mais après, oui, il y a des histoires qui courent depuis longtemps, je suis au courant. Je crois que tous les journalistes de France sont au courant aussi depuis très longtemps et personne n'en parle, c'est tout. Maintenant, c'est la justice qui doit faire son travail, c'est pas à moi de me prononcer sur un truc comme
ça. Non, mais c'était la question était de savoir, comme vous avez partagé quand même pas mal de choses, que vous êtes parti.
Moi je l'ai jamais vu, c'est ça que je peux dire à tout le monde, je l'ai jamais vu avec des gamins. Hein. Je le voyais, c'était avec un mec plutôt balèze, il aimait bien les mecs, quoi, tu vois.
Bah oui, il est marié avec un homme, donc ça c'est sûr. Les vacances des anges, donc ça va être, vous allez le regarder, vous avez déjà vu les épisodes ou pas?
J'ai vu les 5 premiers, mais ils n'étaient pas montés totalement.
Ah ouais. Et alors, vous êtes trouvé comment? Ça vous a fait drôle de vous revoir?
J'étais agréablement surpris. Je flippais un peu parce que la première scène, donc celle qu'on a vue hier en partie, j'étais quand même super stressé avant de rentrer dans la baraque. Quand je suis rentré dans la baraque, j'ai eu un gros coup de trac.
Ouais.
Et je pensais que ça se verrait à l'antenne, mais en fait, pas du tout. Non, je suis content.
C'est une mécanique assez forte, Valérie.
Ça marche puisque, très bien, ça
cartonne. Oui, et puis il y a une mécanique assez forte parce que maintenant, il y a deux équipes. Il y a des équipes dans lesquelles vous allez travailler, vous travaillez dur, et une équipe pour laquelle vous êtes en vacances. Alors évidemment, ils essayent d'être dans la bonne équipe.
Et les travailleurs vont bosser pour les vacanciers.
Bosser. Et je vous ai amené la bande-annonce, vous me connaissez.
Ah ben oui, allez-y.
Une destination de rêve. Et 16 nouveaux anges prêts à tout pour passer des vacances de folie ensemble.
C'est magnifique.
Mais attention, au paradis peut se cacher l'enfer.
Certains d'entre vous vont devoir travailler.
Aïe, aïe, aïe.
Pour la première fois, les candidats vont être séparés en deux groupes.
Je pense que ça va exploser.
D'un côté, les vacanciers qui méritent tout le luxe de la villa et ses activités de rêve.
Waouh, c'est le paradis.
De l'autre, les travailleurs qui méritent pas grand-chose.
Mais attends, c'est quoi ça?
À part des lits superposés.
J'ai l'impression qu'ils sont dans une cellule.
Et du travail tous les jours.
Ah,
Comment elle est pas droite.
Moi, je suis venu pour boire des cocktails, choper des gadgets, je m'entends avec mon ex en train de frapper des poissons.
Le tout sous l'œil intransigeant de Greg Basso.
Greg le millionnaire.
Ouais, donc voilà, c'est
ils m'ont beaucoup fait rire.
C'est plutôt bon enfant et plutôt drôle.
Ouais, non, vraiment. Ouais.
Parce que ceux qui galèrent, ils galèrent vraiment. Hein. Moi, j'ai regardé le premier épisode hier.
Mais encore, t'as rien vu. Hein. C'est que le début, là. Il y en a des bien pires. Hein.
Donc, ce sera tous les jours sur Énergie 12, du lundi au vendredi, 18h15. Les vacances des anges, vous repartez quand à La Réunion?
Je repars, si tout va bien, demain.
Ouais.
Si tout va bien, parce que j'ai dû faire un énième test Covid. J'en fais un toutes les semaines en ce moment. Ouais, c'est génial, j'en ai marre.
Ouais.
Et j'aurai le résultat tout à l'heure. Et normalement, c'est bon.
J'ai
l'autorisation de la préfecture.
Je vais remettre mon masque, moi, Valérie.
Parce que là-bas, maintenant, il faut une autorisation de la préfecture pour rentrer. Hein.
Ah, pour rentrer dans l'île. Et vos enfants sont là-bas.
Mes enfants, ma femme, ma maison. Je suis imposé là-bas, heureusement. Comme ça, ils ne m'ont pas refusé.
Votre vie est désormais à La Réunion. On va vous retrouver donc avec plaisir ce soir. Enfin, ce soir et tous les soirs. Donc, sur Énergie 12 à 18h15. Merci, Grégory Basso, d'être venu ce matin sur Sud Radio.
Je fais un bisou à mes enfants et à ma femme.
Eh bien, écoutez, on les embrasse aussi. Ah oui, et puis, dans un instant, on va parler d'un passeport sanitaire pour voyager, d'un pass sanitaire. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? On en reparle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai. Sud
Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Dès 14h, nous retrouvons Didier Pleu. Pourquoi on a autant de mal en amour à nous conduire en adulte responsable? Qu'est-ce qui nous rend si susceptibles, si jaloux, si dépendants? Venez nous en parler sur Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Sud Radio, l'œil de l'expert.
On est ensemble pour le 10h midi, l'œil de l'expert. Aujourd'hui, c'est Jean-François Rial. Bonjour Jean-François Rial.
Bonjour.
Vous êtes PDG de l'agence de voyage Voyageurs du Monde et vous êtes depuis quelques jours le nouveau président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais qu'on parle de ce pass sanitaire, un certificat européen pour pouvoir voyager et qui, selon Thierry Breton, commissaire européen en charge des vaccins, devrait arriver d'ici cet été. Alors, quel est votre sentiment à vous, PDG d'une très très grosse agence de voyage, est-ce que c'est l'avenir pour pouvoir se déplacer et voyager ?
Alors, c'est très intelligent parce que c'est un outil qui vous permet de collecter à la fois les informations sur le fait que vous soyez vacciné ou que vous avez été malade sans être vacciné et que vous avez des anticorps ou que vous avez fait des tests PCR récemment. Donc, en fait, c'est un outil qui vous permet de répondre à toutes les politiques sanitaires des différents pays européens, sans être une usine à gaz de papier très complexe, qu'on est obligé de se promener, de se balader. Vous avez un outil unique qui collecte toutes vos informations et selon les politiques sanitaires des pays, et pourquoi pas d'ailleurs des restaurants, des croisiéristes ou d'autres gens qui voudraient mettre en place ce genre de choses, bah ça va permettre de fluidifier les choses de façon fantastique. Donc cet outil, si vraiment Thierry Breton tient ses engagements, c'est-à-dire qu'il sort ça le 15 juin et que c'est un outil commun à tous les pays européens, bah, ça sera une avancée fantastique. Évidemment que si l'épidémie va très mal à ce moment-là, ça va pas régler les choses. Mais si, comme on peut l'espérer, ça ira mieux, eh bien, ce sera un outil qui va permettre de fluidifier le système, c'est sûr.
Oui. Certains disent que c'est une sorte de vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah, c'est faux, puisqu'il prévoit l'outil. D'abord, déjà, c'est un outil. Donc, il faut arrêter de mélanger outil et politique sanitaire. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas l'outil qui décide de la politique sanitaire des États. Deuxièmement, dans cet outil, il a été prévu que les données des tests PCR soient collectés, ainsi que celle d'une sérologie positive. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui a été malade et qui a été guéri et qui n'a pas été vacciné. Bon. Donc, ça veut bien dire que ceux qui ne sont pas vaccinés pourraient voyager selon la politique sanitaire des pays. Donc, moi, je trouve ces polémiques, injustifiées, inadaptées et assez peu réfléchies. Ils mélangent déjà outils et politiques sanitaires. Et puis par ailleurs, cet outil permet de justement le faire sans être forcément vacciné. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ouais. Peut-être qu'on reste enfermé à vie pendant 25 ans sans qu'on puisse bouger. Pourquoi pas ?
Oui, mais vous voyez, un auditeur, Cédric, réagit en disant quelle honte, on va obliger les gens à se faire vacciner veut voyager.
Cédric, il faut qu'il apprenne à comprendre ce que proposent les gens. L'instant, il n'y a pas de pays qui ont dit vous ne pouvez voyager que si vous avez été vacciné. Ouais. C'est pas ça le passeport sanitaire.
C'est un pass sanitaire, il faut bien redire.
Et d'ailleurs, le vocabulaire est très important.
Absolument.
C'est pas appelé un passeport vaccinal, c'est appelé un pass sanitaire. C'est très différent. Et aujourd'hui, vous le faites déjà. C'est-à-dire que les gens s'insurgent, ils sont outrés. Mais en fait, aujourd'hui, vous le faites déjà, ça.
Bien sûr.
Puisque vous vous promenez avec votre papier qui donne votre test PCR.
Ouais.
Donc, je comprends pas du tout ce débat qui est d'une imprécision rare.
Oui, mais souvent on entend ce qu'on veut bien entendre. Est-ce qu'on va réussir à mettre les 27 pays de l'Union européenne d'accord ?
Oui, je pense. Et puis de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà mis d'accord sur ce pass sanitaire, sur l'outil. Et après, si un pays ne veut pas tout à fait faire la même chose que les autres pays, ben ce n'est pas un problème, puisque le pass sanitaire permettra toutes les options. Mmh. Vous avez des pays qui diront, vous rentrez sans problème. Mmh. Voilà, vous n'avez besoin de rien. Très bien. Vous avez d'autres pays qui vont dire, vaccination obligatoire. Très bien. D'autres qui vont dire, sérologie positive. D'autres qui vont dire, test PCR. D'autres qui vont dire, sérologie positive.
Et tout sera sur ce fameux pass, sur ce QR
alors
code.
Après, on va dire oui, mais vous rendez compte, la propriété des données, c'est scandaleux, etc. Non, c'est vous qui êtes propriétaire de votre donnée. Elle est sur votre téléphone, sur votre outil, comme vous avez un tas d'autres données sur votre téléphone qui sont autrement plus sensibles que ça, excusez-moi.
Ouais.
Et qui, par ailleurs, quand les frontières les lisent, ils les lisent, ils ne les stockent pas. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc là, encore une fois, on va s'exciter sur des polémiques de propriété privée, de je sais pas quoi. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que les États-Unis, l'Asie, les pays du monde entier se mettent à dépasser cette pandémie, pendant que nous, on va continuer dans des débats qui sont un peu dépassés, quoi.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une cohérence quand même dans les décisions qui sont prises par les différents pays européens? Je parle vraiment de l'Europe. C'est-à-dire que la France a mis du temps à mettre en place le test PCR pour ceux qui venaient d'Espagne. On a un petit peu de mal à savoir. Par exemple, moi, je ne sais pas si on peut aller en Espagne, si on peut aller en Allemagne. Enfin, c'est pas très clair quand même tout ça.
Parce que il n'y a pas de politique globale, c'est certain. Mais en même temps, c'est pas complètement illogique parce que vous pouvez pas avoir la même politique selon votre situation géographique, vos frontières, vos cultures et surtout votre situation sanitaire. Donc hurler sur le fait que les Européens sont pas tous d'accord, c'est pas aussi simple que ça. Moi, ce que je crois par contre, c'est qu'une fois que la campagne vaccinale va être très très avancée, que l'épidémie va baisser dans toute l'Europe, je suis à peu près convaincu que 90% des pays européens vont se mettre d'accord sur des règles des frontières hors Union européenne. Et petit à petit, tout ça va se normaliser et se régler. Aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez pas aller en Espagne sans faire un test PCR.
Ouais.
Mais ça vient d'être décidé par les Espagnols depuis juste quelques jours. Parce que la situation sanitaire en France n'est pas bonne.
Ouais.
Vous voyez, il est normal que les Espagnols demandent des tests PCR pour les Français et peut-être vont demander aucun test PCR pour les Anglais parce que l'Angleterre voit son épidémie refluer de façon très forte. C'est pas non plus complètement illogique. Hein.
Ouais.
Pour pouvoir avoir une politique sanitaire commune, il faut une situation sanitaire commune,
ouais.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a des pays comme le Maroc qui a décidé hier d'interdire les voyageurs de France et d'Espagne. Donc ça,
exact.
C'est voilà. Ça va être encore le cas de ce que vous pouvez savoir dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions?
Il y a tous les cas de figure.
Ouais.
Vous avez des pays qui décident de fermer, comme le Maroc ou français, et puis par exemple Kaye en Thaïlande qui vient de décider d'ouvrir sans quarantaine. Avec des tests obligatoires. Ça ira dans tous les sens tant que la situation sanitaire ne sera pas stabilisée. Moi, je pense que la situation sanitaire, avec la montée en puissance du vaccin, va se stabiliser à compter du début de l'été, et que là, on va pouvoir avoir une politique globale des pays mondiaux qui vont se réouvrir à la fois pour venir chez nous et nous pour aller chez eux. Mais tant qu'on est dans une situation sanitaire comme celle-là, qui est totalement instable, ben, tout est possible, quoi. C'est-à-dire que tous les pays peuvent prendre des décisions à tout moment, à tout instant. C'est pas tellement anormal. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que l'outil de Thierry Breton est fantastique, parce qu'il va permettre de fluidifier tout ça, quoi.
Alors je répète pour nos auditeurs qui visiblement ne veulent pas entendre, ne veulent pas. Alors ils vont me dire que je les prends de haut, mais c'est un pass sanitaire. Ce n'est pas un passeport vaccinal. C'est-à-dire que sur ce document est écrit si vous avez eu le virus. Donc ça veut dire que vous pouvez voyager. Ça veut dire il y a un certain nombre d'indications ne vous oblige pas à être vacciné. C'est un pass sanitaire qui donne l'état de votre santé au moment, à l'instant où vous voyagez.
Et je rajoute un point encore plus important, c'est que le pass sanitaire, quelles que soient les données qu'il collecte, c'est pas lui qui décide de la politique des États.
Oui, absolument.
Il faut arrêter de confondre outils et politique sanitaire. C'est comme si chez Voyageurs du Monde, je mettais en place un outil informatique qui décide de ma politique commerciale.
Ouais.
C'est ridicule.
Ouais.
C'est ridicule. L'outil n'est qu'à la disposition de la politique des États. Et avec ce qu'a mis en place Thierry Breton, qui est très intelligent, vous avez toutes les possibilités de politique sanitaire des États, y compris celle de dire « vous rentrez sans rien ».
Bon. Quand est-ce qu'on va pouvoir revoyager, Jean-François Ariel, la question?
Moi, je pense qu'on va pouvoir revoyager cet été dans certains pays, non seulement de l'Union européenne, mais quelques autres pays vont s'ouvrir.
Lesquels, à votre avis?
Je ne sais pas, mais je dirais que les pays qui ont des situations sanitaires proches des nôtres, ça pourrait être le cas des États-Unis, paradoxalement.
Ouais.
Ça pourrait être le cas des États-Unis. En fait, tout est possible en dehors de l'Asie. Parce que l'Asie a un peu de retard sur la vaccination. Elle n'a pas eu d'épidémie très forte. Donc, elle a une immunité qui est plus faible. Donc, elle doit se protéger plus longtemps. Mais moi, je pense qu'on va revoyager dans certains pays cet été et qu'on va surtout revoyager beaucoup plus à partir du mois de septembre ou d'octobre. Mmh. Voilà. D'ailleurs, j'encourage ceux qui veulent voyager à réserver tôt parce que je pense que ça va être
une ruée
vers l'or. Voilà, ah ouais. Exactement.
Donc
voilà.
Vous pensez que parce qu'aujourd'hui, ça. Maintenant, les compagnies aériennes en plus vous proposent de vous rembourser ou d'avoir des avoirs,
exact,
justement.
Exact,
donc
exact.
C'est possible de réserver maintenant pour la rentrée.
Chez nous, par exemple, si vous réservez un voyage sur une destination qui, à un moment donné, va devenir non autorisée pour des raisons sanitaires, on garantit le remboursement intégral.
Ouais.
Donc, vous n'avez aucun risque. Mmh. Mais par contre, vous avez le risque de payer très cher et de rien trouver, parce que ça va être la ruée vers l'or. On l'a vu au mois de décembre, au moment où on est sorti de la seconde vague, les réservations étaient très, très, très fortes.
Ouais.
Et pourtant, le nombre de pays verts était très limité.
Merci beaucoup Jean-François Réal d'être intervenu ce matin, PDG de Voyageurs du Monde, président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Bravo pour cette nomination. On espère que le beau refera son apparition à Paris grâce à vous. Merci à vous.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Allez, nous on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite pour commenter l'actualité.